VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour, il est 6h ici à Washington DC, 10h en temps universel. Bienvenue à ce bulletin, à la présentation Nani Teutalani. La Guinée équatoriale condamne et qualifie d'ingérence inacceptable la condamnation en appel par la justice française de son vice-président et fils du chef de l'État, Théodorine Obiang, dans l'affaire dite des biens mal acquis. Le fils du président Théodore Obiang-Nguema, Théodorine, vice-président chargé de la défense et de la sécurité de son pays, a été condamné lundi par la Cour d'appel de Paris à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende et des confiscations pour s'être bâti frauduleusement un patrimoine considérable en France. Malabo évoque de fausses accusations de corruption. À Paris, les avocats de M. Obiang ont annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation contre sa condamnation en appel. La Guinée équatoriale a condamné. Au Togo, le principal parti d'opposition, l'Alliance nationale pour le changement, a dénoncé hier l'interdiction ou la perturbation dans le nord du pays de plusieurs meetings de son candidat à la présidentielle du 22 février, Jean-Pierre Fabre. Plus de détails avec Irénée Hermanombo.
5 meetings électoraux ont été interdits et perturbés depuis l'ouverture de la campagne électorale le 6 février, ont rapporté les responsables du parti. Dès le lancement de la campagne électorale, Jean-Pierre Fabre, tête de file de l'opposition togolaise et candidat de l'ANC en tournée dans la région des savanes, de la Kara et centrale, ne cesse de rencontrer les pires difficultés pour battre campagne comme la loi l'autorise, a indiqué un communiqué publié par sa formation politique. Vendredi, le meeting de Sinkassé a été interdit, les militants de l'ANC ont dû se résoudre à accueillir M. Fabre sous un arbre au bord de la route à l'entrée de la ville. Le même jour, le meeting de Tondjouaré a été interdit. Le meeting prévu samedi à Gando est également interdit par le préfet. Lundi, des personnes se réclamant du parti au pouvoir empêchent la tenue à Bassar du meeting de campagne de l'ANC, précise le communiqué qui dénonce des intimidations des militants sous le regard indifférent des forces de sécurité et de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La campagne prendra fin le 20 février. Environ 10 000 gendarmes et policiers ont été déployés. 7 candidats sont en lice pour la présidentielle, notamment le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, l'ancien Premier ministre Kodjo Agbeyome et le président fort Yassingbe qui briguera un 4e mandat.
Plus de 100 personnes ont été enlevées par des séparatistes armés dans les régions anglophones du Cameroun avant les élections législatives et municipales dimanche, a assuré ce mercredi Human Rights Watch, tout en accusant les militaires de nouveaux abus. Les forces de sécurité de l'État n'ont pas suffisamment protégé les civils des menaces posées par les séparatistes, mais ont plutôt commis de nouveaux abus à leur encontre au cours de la même période, ajoute l'ONG. Ni des groupes indépendantistes avaient interdit aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest où se concentre la minorité anglophone du Cameroun de participer. Ils ont multiplié récemment leurs attaques, mais dimanche, jour du scrutin, un seul incident, des échanges de tirs à proximité d'un bureau de vote, avait été rapporté. Ni les résultats du scrutin, ni même le chiffre de participation n'ont été rendus publics à ce jour. Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à voter ce mercredi après-midi une résolution soutenant un cessez-le-feu en Libye. Une résolution qui serait le premier texte contraignant adopté depuis le déclenchement du conflit début avril. Bagassi Koura nous en parle plus.
Un vote a été demandé par le Royaume-Uni, rédacteur du texte qui a fait l'objet de discussions depuis plus de 3 semaines, indique un diplomate. La position de la Russie, qui avait bloqué le 5 février le projet de résolution, reste inconnue. Le texte affirme la nécessité d'un cessez-le-feu durable en Libye à la première occasion et sans précondition. Dans ce projet soumis au vote ne figure plus la mention de la préoccupation du Conseil de sécurité devant l'implication croissante de mercenaires en Libye. Cette mention avait été à l'origine du blocage russe la semaine dernière, Moscou réclamant de remplacer le mot mercenaire par combattant terroriste étranger. Au début des négociations, les États-Unis avaient réclamé que les mercenaires russes du groupe Wagner soient clairement identifiés dans le texte, selon un diplomate ayant demandé l'anonymat. La Russie est accusée depuis plusieurs mois d'avoir soutenu l'acheminement en Libye de plusieurs milliers de mercenaires de ce groupe privé réputé proche de la présidence russe au profit du maréchal Khalifa Haftar qui cherche depuis début avril à s'emparer militairement de Tripoli.
La justice portugaise a ordonné le gel des comptes bancaires au Portugal de la milliardaire angolaise Isabel dos Santos, fille de l'ex-président José Eduardo dos Santos. Elle est accusée de détournement de fonds publics par la justice de son pays. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le parquet portugais, le gel des comptes d'Isabel dos Santos entre dans le cadre de la demande de coopération judiciaire internationale adressée par les autorités angolaises. Elles accusent la milliardaire dirigeante de plusieurs sociétés de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent lorsqu'elle était à la tête du géant pétrolier Sonangol sous la présidence de son père. Après le gel de ses avoirs dans son pays, le procureur général de la République angolaise, Helder Pitagros, s'était rendu fin janvier à Lisbonne pour solliciter l'aide du ministère public portugais. La justice angolaise avait mis la pression sur Lisbonne en précisant qu'elle la soupçonnait d'avoir investi au Portugal des fonds détournés illégalement. Isabel dos Santos avait pris des participations dans plusieurs grandes sociétés portugaises. Depuis l'éclatement du scandale, elle a commencé à vendre ses parts. Elle rejette les accusations portées à son encontre, affirmant qu'elle est la victime d'une chasse aux sorcières.
Le nouveau coronavirus a provoqué la mort de 1113 personnes en Chine continentale. Les autorités nationales sanitaires rapportaient ce mercredi 97 nouveaux cas. L'OMS estime qu'il y a une chance réaliste de stopper la propagation dans le monde du nouveau coronavirus. Elle a souligné mardi lors d'une conférence que même si plus de 99% des cas étaient localisés en Chine, le virus représente une très grave menace pour le reste du monde.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le sénateur socialiste Bernie Sanders a remporté mardi la primaire démocrate de New Hampshire, suivie de près par les modérés Pete Buttigieg et Amy Klobuchar, désormais installés dans le groupe des candidats susceptibles de défier Donald Trump en novembre, selon les grandes chaînes américaines. Donald Trump était accusé mardi de bafouer le principe de la séparation des pouvoirs après une intervention exceptionnelle du ministère américain de la Justice pour adoucir une peine de prison requise contre Roger Stone, un de ses amis de longue date, reconnu coupable en novembre de mensonges au Congrès dans le cadre de l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection américaine de 2016. Toujours aux États-Unis, une commission du Sénat de l'Utah a adopté à l'unanimité un projet de loi visant à décriminaliser la polygamie encore pratiquée par des milliers de familles dans cet État de l'Ouest américain, berceau de la religion des Mormons. Le président palestinien Mahmoud Abbas a rejeté solennellement hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU le plan de paix israélo-américain qui ferait, selon lui, d'un État palestinien un gruyère suisse, un État fragmenté, après avoir renoncé la veille à un vote d'une résolution faute de soutien international. Les Palestiniens expliquent avoir voulu ménager leur soutien à l'ONU, soumis à une très forte pression des États-Unis. Selon un diplomate occidental, Washington a menacé de mesures de rétorsion, notamment financières, les pays qui se positionneraient contre lui. Des progrès notables ont été réalisés dans les négociations de sortie de conflit entre Washington et les talibans, a affirmé mardi le président afghan Ashraf Ghani, après une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Le gouvernement espagnol a obtenu mardi le feu vert de la Chambre des députés pour lancer l'examen d'un projet de loi reconnaissant le droit à l'euthanasie sous strictes conditions, malgré l'opposition de l'Église catholique et de la droite. Le pape François dévoile ce mercredi un texte très attendu sur les autochtones d'Amazonie menacés par la déforestation et l'extraction minière, mais contrairement à ce que réclamait l'épiscopat local, il ne devrait pas accorder son feu vert à des prêtres mariés. En sport, la Fédération congolaise de football a annoncé la nomination de Pamphile Miyahio comme entraîneur du TP Mazembe à la tête de Léoport A. Emmanuel Adebayor s'engage avec le club paraguayen l'Olympia, qui a annoncé la signature avec l'attaquant togolais. L'ailier international camerounais Paul Georges Ntep a résilié son contrat avec le club allemand Wolfsburg. Un membre de l'encadrement du club de football professionnel de l'AS Dakar Sacré-Cœur a été relevé de ses fonctions et interpellé par la police après la dénonciation d'abus sexuels présumés sur des mineurs du centre de formation. Rennes, tenant du titre, est devenue mardi la première équipe à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France après avoir battu Belfort 3-0. Le Brésilien Neymar, absent lors des deux derniers matchs de Paris Saint-Germain en raison d'une blessure aux côtes survenue il y a une dizaine de jours, est forfait pour le quart de finale de la Coupe de France mercredi. Et enfin, les revenus de la NBA ont généré des revenus de 8 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 10%. C'est la fin de ce bulletin. Merci d'être à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
De l'info sur VOA Afrique.